Elito, les auditeurs et toute l'information.
Le 6-9 de France Inter.
Audrey Pulvar.
Patrick Cohen.
À retrouver tous les matins, du lundi au vendredi, à partir de 6h. France Inter. La différence.
15h et presque 4 minutes sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet.
Bonjour, Thomas de Ternier. Je n'avais rien de spécial à dire, juste qu'il fait beau ce matin. Ternier, c'est une ville cheminote, en briques rouges, et le soleil tape sur les murs. Il y a des grands arbres verts avec le vent qui souffle, et c'est calme, c'est beau, ça fait du bien, un peu de soleil, ça recharge les batteries. Voilà, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Salut.
Oh là là, je vais très vite, hein, parce que Daniel, il y a du pain sur la planche, là. Je suis en train d'écouter les informations. Eh bien, dis donc, c'est fini les vacances, là. Vivement lundi, bordel de merde. Allez, salut Daniel, et vivement ton retour.
Bonjour à Daniel Mermet et à toute son équipe. Je voulais juste profiter de l'antenne pour dire un petit mot à M. Kouchner. Déserter un gouvernement devenu ouvertement raciste et xénophobe, c'est plutôt une attitude digne et courageuse. C'est comme entrer en résistance. Alors que rester dans un tel gouvernement aujourd'hui, moi j'appelle ça collaborer.
Mardi 27 juillet à la Courneuve, expulsion des familles sans papier par les CRS. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur Internet où l'on voit la violence de ces hommes, de ces CRS face à des enfants et des femmes. Voilà, donc on voit les enfants traînés par terre, on voit une dame qui est victime d'un malaise, voilà. Ce sont les nouvelles méthodes du préfet Lambert.
La pire chose que les humains aient inventée, je pense, c'est la police. Mais c'est quoi la police? La police, hein? La police. C'est la cité, c'est la ville. C'est-à-dire tout ce qui marque l'empreinte de l'homme. Tout ce vocabulaire-là, police, politique, c'est exactement la même racine. Civilisation, citoyen, cité, urbanité, il a de l'urbanité. Tout ça, ça a à voir avec la ville. La ville, ça représente quoi? C'est la transformation de la nature par l'homme. C'est ce que l'homme a apporté. Et tout son vocabulaire de grandeur, c'est autour de ça, quoi. La politique, la civilisation, d'urbanité. Et quelque chose en même temps dans tout ça me dégoûte, tu vois, Daniel, ça me dégoûte. Il faudrait pas que ce soit comme ça, quoi. Police politique, par exemple. La police politique, c'est un pléonasme. La police est toujours politique. Que faire? Que faire? Que faire dans ce... En même temps, je rêve d'engloutissement de tout ça. Et trouver autre chose. Que l'homme cesse de s'admirer lui-même, finalement. D'admirer son œuvre. Qui se contente d'être là, en invité. C'était bien, on a été bien reçu. La table est excellente. Et puis, le lit est confortable. Je reviendrai. Bon, c'est ça qui aurait été bien, quoi.
Ouais, c'est pour fêter ton retour, pour fêter la rentrée. On était à Aurillac, on a vu la pièce de Hordin, Karl Marx, on a vu un reportage, enfin un spectacle sur la commune de Paris, et la semaine prochaine on sera dans la rue avec les gens qui travaillent avec nous. On a vu aussi la compagnie Joli Mom, tu sais, « Dame tu mano, compañero, préstame tu corazón, barricada levantaremos como ayer la confédération. » C'est la rentrée à France Inter, tout le monde rallume sa radio. Car on va pas les laisser faire varler les autres, nous aurons sur le dos. Car c'est tout ce que tu déranges depuis 20 ans quand tu as le micro. Tu parles de lutte et de mélange, de cul aussi, mais avec toi c'est beau. Da tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricada levantaremos como ayer la confédération. Allez, vive Joli Mom. Ciao, vive, portez-vous bien.
Merci les AMG, merci les auditrices modestes et géniales, merci les auditeurs modestes et géniaux, et salut à tous. Nous revoilà, là-bas et de retour, et les méchants vont souffrir. Les riches vont en baver, les rentiers vont mal dormir encore cette année. Par contre, le veuf comme l'orpheline, le sans-travail comme le sans-papier, le sans-logis comme la sans-culotte, nous trouverons à leur côté le micro entre les dents. Tremblez, tyrans, votre meilleure forteresse, c'est l'inertie du peuple. Mais prenez garde, la barre revient, les pneus gonflés à bloc. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, on commence avec des photos de vacances, des messages que vous nous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis tout au cours de l'été et bien d'autres choses encore jusqu'à 16h. Deux choses à vous dire avant de démarrer. D'abord, cette boîte vocale, ce répondeur, on aimerait y entendre plus souvent des renseignements généreux. On avait lancé ça un peu en s'inspirant d'un site qui fait déjà ça, les renseignements généreux. C'est à partir, vous l'ignorez parfois, de certains de ces messages que nous avons bâti des émissions et un certain nombre de reportages. Donc, continuez, vous avez vu et écouté et lu aussi, bien sûr, au cours de cet été, la surprenante action de Wikileaks. Ces renseignements qui est utile à tous, eh bien, vous pouvez utiliser le répondeur de la Bassie. J'y suis aux mêmes fins. Donc, renseignements généreux. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, l'enregistrement mensuel de l'émission avec l'équipe du Monde Diplomatique. Eh bien, ce sera pas plus tard que demain, 31 août, et ça se passera comme les dernières fois, les derniers mois, dans ces derniers mois de la saison précédente, à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est à 17h45, donc avec l'équipe du Diplo, on aura un groupe musical, comme d'habitude, c'est Antoine Chao qui s'occupe de ça, et donc ce sera très gai et très malin. Donc demain, 31 août, pour venir, pour assister, il faut vous inscrire. Vous envoyez un mail avec vos noms et numéros de téléphone en précisant bien à combien vous voulez venir, si vous êtes 2, 3, 4, 5 ou 10. Et vous l'envoyez à l'adresse suivante. Attention, lediplojava@gmail.com. Le diplojava tout attaché, @gmail.com. On me dit ça dans mon casque. Le diplo à la Java, @gmail.com, et on se retrouvera donc demain. Voilà, en route, d'autres messages auparavant.
Bah, salut tout le monde, salut Daniel, bah, merci pour tout, quoi. Moi j'ai découvert là-bas si j'y suis il n'y a pas si longtemps que ça, et là du coup bah, tu pars en vacances, hein, mais bon, moi je suis heureux parce que j'ai découvert le site, et du coup bah, je m'abreuve de toute l'histoire de là-bas si j'y suis, puis bah, un grand merci, et puis bah, bonnes vacances à tous. Ciao.
Voici le texto. Il était une fois Liliane, une fée très très puissante, qui, de sa baguette magique bleu-blanc-rouge, offrit des talonnettes au plus petit être du pays, mais, un jour, celle-ci perdit sa baguette sur le perron de la maison de sa comptable. Alors, l'horloge de Londres sonna trois coups. Le petit être perdit immédiatement ses talonnettes et redevint un tout petit pied nickelé, aux poches trouées, au teint gris et à la chevelure décolorée. Tu connaîtras la suite si tu es sage. Biscate.
SFR vous dit au revoir.
Salut Daniel, c'est Ben, le saisonnier qui vit en camion. Bah, encore un petit coup de gueule du matin, on est début juillet, là, on part ramasser là, les abricots dans quelques instants, quelques heures, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Le patron ne peut toujours pas nous payer, d'ailleurs, parce que la crise et qu'ils sont sous-payés eux-mêmes. Donc voilà, tout le monde galère, hein, patron comme employé. Et puis le petit coup de gueule de ce matin, c'est juste pour dire que voilà, encore une fois, tout augmente. Le gaz, les transports en commun, et tout ça augmente de 4 à 15% dans l'année, comme d'habitude. Et puis le SMIC, il augmente quand au fait? Il augmente un peu début juillet, à peine 1%. Comment ça peut suivre une inflation pareille? Comment on peut encore vivre avec aussi peu de thunes? Donc voilà, tout ça pour dire que bah, hier, pour pouvoir aller bosser, n'ayant toujours pas assez d'argent pour vivre. On a été obligé de siphonner un chantier pour mettre un peu de gasoil dans notre camion pour pouvoir aller travailler. Et ouais, faut bien. Donc désolé au chantier, mais merci quand même. Au moins on arrivera à les bosser. J'espère que l'assurance marchera pour eux. Et bonne chance à tous. Allez, à bientôt.
Bonjour. On est le 28 juillet. Et je suis en train de lire sur Yahoo un papier du Monde FR où le président de BP, Tony Hayward, se plaint dans un contexte qu'on va appeler pour vivre revivons caché. Ce type se plaint parce qu'il dit c'est un jour très triste pour moi. Que ce soit juste ou injuste n'est pas le problème. Je suis devenu le visage public du groupe. Et j'ai été diabolisé, vilipendé. Je suis devenu le visage public. Ça, c'est étonnant. C'est vraiment impressionnant comme propos. En fait, on ne connaissait pas ce type-là avant. Et d'un seul coup, il ne supporte plus d'être devenu le visage public du groupe PP. Allez, bonne fin de vacances.
Salut Daniel et salut toute l'équipe et puis tous les AMG aussi. Content de vous retrouver après 2 mois de traversée du désert radiophonique. Ça va vraiment faire du bien de réentendre de nouveau que sa vie et puis surtout message de vie. Je voudrais aussi adresser un message de soutien à mon pote Régis qui, pareil, un AMG, qui va t'écouter cette fois-ci sur son lit d'hôpital. Malheureusement, le pauvre, il a attrapé un crabe et il a besoin de soutien. Donc à travers ce message, Régis, et on est là. Allez, on y sera toujours. Bye. Forza, portez-vous bien. Bye.
Mot d'enfant, piqué ou zapping. La roue de la fortune. Un jeune papa se demande quelle décision prendre. Et votre petite fille de 5 ans vous regarde, dit Jean-Pierre Foucault. Oui, ma petite fille, elle, se demande comment son papa va sortir de la télévision. C'est Jocelyne à Bayonne.
Oui, aujourd'hui, jeudi 3. J'ai entendu Besson sur France Inter à 13h traiter Stéphane Hessel de grotesque. Il y a des choses là que j'arrive plus à comprendre, quoi. Je pense que Besson a fait un grand pas vers Doriot quand même. Un très grand pas. Ça commence à puer vraiment.
Bon, Mermé, ça y est là. T'as fini de bronzer, tu rappliques? Parce qu'on n'en peut plus là. On va crever d'ennui avec les programmes d'été. Salut à tous.
Salut, c'est là-bas si j'y suis qui repart.
Flight number 2, arriving from New York.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs modestes et géniaux. Alors moi je voudrais me féliciter de l'éviction de l'antenne de Monsieur Guillon, Stéphane de son prénom, et de Monsieur Porte qui l'a prise et qui, c'est pas plus mal comme ça. Ces personnages ont toujours été complices et ont toujours cautionné la société multiethnique, la place de l'islam dans la France, etc., etc., défense des sans-papiers, etc., etc. Je pense que vraiment, ces personnages sont des tristes cires qui méritaient d'être foutus à la porte bien, bien plus tôt, ça aurait dû se faire bien avant. J'espère maintenant que nous aurons droit à des chroniques dénonçant les musulmans, y compris les soi-disant modérés, histoire de foutre dans le même panier tous les noirs, les arabes, les bouilloules. Et après, on fout ça à la mer. On fout ça à la mer, on les fout à la mer. Histoire de... de faire du bien, quoi. On les fout à la mer, quoi. On les fout dans les camps.
Attention, humour. Attention, second degré, ce que vous venez d'entendre, c'est de l'humour et c'est du second degré. Et on doit vous l'avouer, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, est rassurée dans ce premier jour de cette rentrée. Rassurée, pourquoi ? Parce que quand on s'est quitté, souvenez-vous, fin juin, on avait l'impression, avec le mauvais esprit qui nous caractérise et qui caractérise quand même un certain nombre d'auditeurs, que les raisons qui avaient fait que nos deux confrères humoriste Guillon et Porte avaient été virés était qu'ils avaient manifesté des engagements politiques trop affirmés. On a pensé ça, et vous avez le pensé surtout ce qui concerne d'ailleurs Didier Porte. Et nous sommes tous trompés, vous et nous, et c'est tant mieux, car vous allez l'entendre, les nouveaux humoristes que vous entendrez désormais le matin, eh bien certains d'entre eux sont aussi engagés politiquement. Et oui, on peut aujourd'hui être un humoriste le matin dans le 7-9 de France Inter et manifester sans aucune espèce de complexe son engagement politique. La preuve.
Ça marche là ? D'accord. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Nicolas. Je suis en coulisses et vous m'entendez ? Tout le monde m'entend ? Juste avant d'entrer en scène, je voulais savoir si le public était chaud aujourd'hui. J'entends rien du tout. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je peux vous le dire, je peux vous l'avouer, moi aussi, et je suis très heureux. Je suis très heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis très content. Je suis très content parce que nous fêtons à l'UMP aujourd'hui le 200 millième adhérent à l'UMP. Et je l'ai croisé juste en arrivant dans les coulisses. Vous le connaissez tous, c'est un scoop. Il s'agit en fait de François Bayrou. Il a quitté l'UDF, il s'est inscrit à l'UMP. Attendez, histoire de pas se mouiller, il paraît aussi qu'il s'est inscrit au Parti Socialiste. Ah oui, ça je peux vous dire que Bayrou c'est un homme de conviction. Le problème c'est qu'il sait plus où il les a rangés. C'est le Dick Rivers de la politique. Moitié rebelle, moitié ringard, moitié grotesque. Vous le savez, chers amis, je prépare mon prochain voyage en Corse. Je sais pas s'il y a des Corses aujourd'hui parmi nous. Oui, où est-ce qu'il y a... Enlevez vos cagoules, hein, n'ayez pas peur. J'aime beaucoup les Corses. Souvent, et quand je dis que je veux dire tout simplement que souvent on dit du mal des Corses, à tort. Souvent on dit les Corses, ils sont paresseux, ils sont fainéants. C'est faux. Vite abattu, mais pas fainéant. Je voudrais vous dire aussi que dans les pays du Nord, vous le savez, le Père Noël, c'est Saint-Nicolas. Donc en tant que Saint-Nicolas, j'ai reçu, bien sûr, les lettres de commande au Père Noël de certains hommes politiques, notamment Ségolène Royal, hein, qui a commandé au Père Noël un sondage pour savoir quel était le candidat préféré des Français. Elle a eu une bonne surprise. D'abord, elle a vu que c'était moi en premier. Bon, ça, c'est une surprise pour personne. Et surtout, elle a vu qu'elle était numéro 2. J'aime beaucoup Ségolène Royal. Moi, je l'appelle la crème anglaise. Pas parce qu'elle était anglaise, non, mais parce qu'elle accompagne le flanc. Mais je voudrais aussi saluer, bien sûr, Mémé Chandail. Mémé Chandail, ça veut dire quoi? Je parle d'Arlette Laguiller. Elle a commandé au Père Noël une 6e candidature aux élections présidentielles. Hein, la pauvre femme, quel courage! Il paraît qu'elle peut faire 7 ou 8%, se retrouver donc peut-être au deuxième tour. 7 ou 8%. Si, vous savez comment? Si elle cumule tous les scores qu'elle a fait depuis 1974, elle peut faire 7 ou 8%. Chers amis, vous le savez, juste avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que le président sortant, Jacques Chirac, m'a dit de faire attention à la terminologie employée pour désigner, bien sûr, les délinquants en banlieue. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, prenons le mot, parce que lui, il en utilise des mots pour un autre. Hein, le président Chirac, lui, par exemple, le mot président. Hein, moi, je sais que c'est un boulot. Eh bien, lui, il est persuadé que c'est un camembert. qui retourne dans sa boîte. Je suis très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis populaire. Je suis petit, c'est vrai, mais je suis populaire. Je suis tout petit, mais je suis tout populaire. Alors j'aimerais surtout, bien sûr, vous dire que tout ça était un gag et que va bientôt arriver sur cette scène le vrai Nicolas Sarkozy. Il y a deux solutions. Soit il me serre la main, soit il me casse la figure. Mesdames, messieurs, Nicolas Sarkozy.
Mes chers amis, vraiment c'est la dixième fois qu'on fait la réunion des nouveaux adhérents. Bon, il faut vraiment qu'on trouve une autre salle rapidement, parce que. Mais je voudrais d'abord remercier Gérald Dahan, parce que la vie politique c'est pas toujours quelque chose de facile. Et dans la vie politique, il faut un peu de courage, beaucoup de conviction, et puis du sens de l'humour. Et je veux remercier Gérald parce que lui, il utilise l'humour à notre endroit, mais on a l'impression qu'il aime les sujets dont il parle. Il y en a tellement dont on a l'impression que leur vie doit être un enfer, parce qu'il parle de ceux qu'il n'aime pas. Voilà. Alors Gérald, merci d'avoir été avec nous.
Bonjour. Je suis le chanteur masqué de l'apocalypse et je suis pas content parce que la gauche, eh ben, elle a pas su nous manipuler aussi bien que la droite. Alors ça, c'est une chanson démagogique qui s'adresse à une certaine majorité de moins de 50 ans. Moi, je suis pas un fonctionnaire. Moi, je suis pas un étudiant à la con. Je suis pas handicapé et j'ai pas de violeur dans ma famille. Alors, j'en ai rien à foutre du nouveau président. Je suis pas noir et j'ai pas trop une tête d'arabe. Je vis pas en HLM, mais en plus moi j'ai mes papiers. Du coup j'ai pas les flics sur le dos chaque fois que je sors m'acheter des chiffres. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président. Je suis quand même un peu aigri. J'aurais préféré que ce soit la c*** à la place d'une.
Ouais, salut, salut. Je viens d'apprendre que 587 personnes ont été arrêtées à Toronto parce qu'ils manifestaient contre le G20. Le G20 qui nous coûte quand même $1 milliard sur 3 jours et qui n'aboutit à rien. Mais alors rien de rien, les banquiers vont ressortir de là, mais alors blanchis comme c'est pas possible, et voilà, et nous on va payer comme des connards. Je suis à découvert à la poste de 40 euros, donc, et j'arrête pas de recevoir des lettres de relance, il y en a plein le cul, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire qu'ils fassent gaffe à ces mecs-là, mais pff, quand je vois mes... Le peu de... Bah, ça me dégoûte, d'accord. Allez, là, ciao.
Bonjour à tous. Voilà, il y a un an, jour pour jour, le gouvernement de Manuel Zelaya fut renversé au Honduras par un putsch. Et aujourd'hui, à Bruxelles, nous sommes une petite cinquantaine devant l'ambassade du Honduras où réside Monsieur Ramon Custodio, hondurien putschiste. On n'oublie pas ici en Belgique, j'imagine qu'on n'oublie pas aussi ailleurs en Europe. Et pour une fois, les Flamands et les Wallons et les francophones sont unifiés ici, donc c'est assez beau à voir. Alors les revendications sont non au coup d'État, non à la censure et aux assassinats, rétablissement du gouvernement légitime du président Manuel Zelaya, En Belgique, expulsion de l'ambassadeur hondurien Putis Ramon Custodio. En Union européenne, annulation de l'accord de libre-échange et de coopération avec le Honduras. Solidarité avec le peuple hondurien en lutte pour la démocratie et la liberté. Soutien à l'ALBA que le Honduras a abandonné à cause du gouvernement putschiste. Voilà, courage à tous. Ciao, ciao, c'était Xavier de Bruxelles.
Le président a démissionné ? Le président ? Ah merde, c'est le président de la Fédération française de foot en fait. Ah merde, putain. Oh mince.
Bonjour, je m'appelle Hélène B, je suis de la Nièvre. Monsieur Juppé a la mémoire très très courte. Il était trésorier du RPR et ministre. Et oui, en critique. Bon, ben je sais pas, moi je pars pas en vacances, mais je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.
Oui, je trouve que c'est quand même assez excellent d'entendre Alliot-Marie dans la ferveur te clamer la présomption d'innocence, sachant que la culpabilité se prouve, et puis de mettre ça en perspective avec l'affaire Coupa, c'est assez grandiose. Voilà, donc maintenant on va revenir sur les grands classiques, voilà, la présomption d'innocence, parlons-en. Bon, ben c'est pas mal, hein. Bon, y aurait plein de choses à dire, mais je laisserai un message une autre fois. Allez, salut.
Allô, Daniel Marmet, vous n'êtes pas là, mais je laisse une commission. Comment se fait-il que sur LCI, on ose interviewer ce minable François Hollande, qui n'a rien fait pendant 11 ans au Parti Socialiste et qui ne fait rien du tout que du tort? Alors il a fait venir ses amis, évidemment, qui disaient du bien de lui. Moi, je le déteste, ce type-là. Il rigole bêtement. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là, à parler tout le temps? Pendant 11 ans, il n'a rien fait. Merci beaucoup. J'espère que vous ferez la commission.
Dis donc, Daniel, là, je viens d'entendre les petiots, les 40 000 petiots du Secours Populaire, toutes ces masses populaires qui vont déferler sur Paris. Je me demande si c'est pas un peu dangereux, quand même. Il y a des Français, hein, des Français populaires. Et il y en a aussi qui viennent de l'étranger, de Bulgarie, il y a peut-être des Roms cachés dedans.
Oui, les Roms, bien sûr. Beaucoup de messages à ce sujet dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis énormément, évidemment, sur l'affaire Woerth-Bettencourt avec un trait d'union. Désormais, il y a ce trait d'union entre le monde politique et le monde de l'argent. C'est ce trait d'union qui a caractérisé, je crois, cet été. Beaucoup de messages en juillet sur, évidemment, l'éviction de nos camarades de Guillon et Porte. Et puis, il faudrait quand même, un beau jour, dresser la liste de tout ce qui échappe au radar des médias. Il y a des grandes personnalités qui échappent pendant des années au radar des médias. Je pense à Jean Ferrat, que nous avons célébré l'an passé, enfin la saison précédente. On pourrait parler de Laurent Terzieff, dont le décès nous a valu des moments très beaux de dommages, qui allait à contre-courant véritablement à ce moment-là, du pourrissement général dans les infos. On était consternés. Et il y avait un enchanteur et du pourrissement de l'autre côté. Mais pendant de très longues années, Laurent Terzieff a traversé, sans souffrir d'ailleurs outrageusement, un désert médiatique, disons, ce qui n'empêchait pas du tout de rencontrer son public et de fonctionner. On pourrait parler de Rémi Gaillard, ce type irrésistiblement marrant, qui dit merde à la télé, par exemple, ce qui n'empêche pas du tout de fonctionner, ou les Ogres de Barbac, qui est un groupe musical qui est hors média et qui fonctionne très très bien. Tout ça, c'est pour parler de Uzest musical. Voilà 33 ans que chaque année, à Uzest, autour de Bernard Lubat, que vous connaissez, eh bien, il y a une grande fête. Et cette année, c'était encore le cas avec les amusiciens, les anartistes, les psychomédiens, les malpoliticiens, les chababadadistes, les béotiens, les écriviens, les syndicalpinistes, les hépatati, pataphysiciens, les improètes, etc. Vous reconnaissez le langage de Bernard Lubat. C'était la 33e édition et c'était formidable. Vous allez en avoir la preuve. Et c'était aussi le 15e anniversaire de Radio Uz. C'est quoi Radio Uz? Bise, eh bien, c'est la radio que fait chaque été, dans le cadre de cette fête, notre Antoine Chao. C'était le 33e Esteyada de las Arts. Esteyada, en gascon, ça veut dire la fête.
33e Esteyada de las Arts, le festival du geste musical de Bernard Lubat.
Radio Uze, la radio qui ajoute à l'instinct de conservation, l'instinct de conversation.
Radio Uze.
Freestyle. 33e Esteyada de las Arts.
Le programme.
Salut à tous, c'est Michel. Je prête ma voix une année de plus au festival de Uzest.
Contre vents et mérites, le festival d'Uzest.
Une 33e édition critique, en situation critique, dans une époque en état critique.
Et de retour à Uzest.
Ne comptez pas sur nous, artistes, pour gérer la crise. Fourguer du pain et des jeux, en ligne. Dealer du divertissement commercialisé, polluant, gluant. Éternel opium du peuple. D'ici, d'en haut, d'en bas, la création artistique se propulse dans toutes ses libertés, aspérité, singularité, altérité, rien à voir avec les consonances consensuelles molles qui se financiarisent de partout.
Le retour de la Esteyada Uzest, eh bien, il y a les mêmes problèmes que quand on est parti. Ce qui veut dire que nous sommes en bonne santé. Nous, dans la proposition qu'on fait, c'est qu'on n'a pas baissé la garde. On est toujours d'avant-garde, c'est-à-dire d'avant les gardes. Personne ne nous garde et tout nous regarde. Voilà. Et donc ça pose toujours problème. C'est assez heureux, puisque si on pose toujours problème, c'est qu'on est toujours vivant, quoi. Un pays qui n'a pas d'histoire n'est pas un pays vivant, quoi. Peut-être que sans nous, il n'y aura pas d'histoire ici. Ça serait... Eh ben, ça serait ce que fait la mairie actuelle qui s'occupe de notre avenir. Elle agrandit le cimetière.
La cuillère voulait un tiroir, le tiroir une table, la table une cuisine, la cuisine une maison, la maison un village, le village une paroisse, la paroisse un pays, le pays une langue pour lécher la cuillère.
Bernard Combi, Raphaël Kenéen.
La devise de cette 33e Esteyada, c'est identité, improvisation. Identité, improvision et supermarché. Voilà.
Identité, improvision et supermarché. On va abondamment discuter de l'identité. C'est de plus en plus, paraît-il, la mode, et c'est pas un luxe. Improvision, eh bien, faire des improvisions pour des lendemains qui ne chantent pas des masses. Hein, voilà. Et puis supermarché, c'est parce qu'on est dedans, quoi. On est en plein dans les supermarchés. C'est-à-dire que le capitalisme est dans nous. Il est dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos cerveaux, dans les poumons, quoi. On peut pas faire autrement. Mais par contre, on peut ne pas être d'accord avec le fait de ne pas pouvoir faire autrement. Donc, il est possible de résister, il est possible de lutter. Ici, donc, nous sommes des maquisards.
Demandez le programme. Urgent, crier. Opéra sauvage à partir de l'œuvre poétique d'André Benedetto.
Ça se cogne, ça se bouscule, ça se cogne, ça se déchire, ça se tue.
33e Esteyada de las Arts, le festival du geste musical de Bernard Lubat.
Le geste musical ne vaut rien, donc ça n'a pas de prix. Ce qui pour du libéralisme est emmerdant.
Quand l'usine aboie.
Isabelle Loubert.
Oui,
chronique poétique des hommes et des voix, compagnie du Parlez-moi.
Ça va. Allez, sortez du bois, que l'on vous voit, pour une fois, qu'on vous donne la parole, allez-y, prenez-la.
Est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche, parce que ça fait bouger les petits cristaux liquides sur l'appareil.
Écoute.
Et Radio Uze, alors? Le rôle de Radio Uze dans Uzest?
C'est fondamental du point de vue politique, c'est la radio que personne n'écoute. C'est un peu comme moi qui joue pour des gens qui ne m'écouteront jamais. C'est ce que sont des écrivains qui écrivent pour des gens qui ne les liront jamais. C'est-à-dire que c'est gratuit. On n'attend pas un retour sur investissement. C'est notre plaisir aussi, c'est notre désir.
Demandez le programme.
Le programme.
Alors, dimanche 22 août.
22 août.
Ah, pour le programme, on va aller chez Thierry Nebout, boucher du Zest. Est-ce qu'après avoir eu vos tranches de jambon, vous seriez d'accord de parler au micro ?
Compagnie du bat chanson enjazzé. Entre mots et musique, entre jazz et chanson, depuis longtemps, c'est le baston. Le couple parfait, un vrai couple gorge.
I love you, baby, bebop, chantam, tam, pour mes amours sur le pavé. Au revoir, Charlie Parker, dit-il, et que les deux de l'audience. J'aime pas la coda.
Ça y est, j'arrive même pas à le dire. Archi Shep.
Ah non, Archi Shep. Voilà, point barre. Voilà.
Archi Shep, saxophone, chant, piano. Zachary Abraham, contrebasse. Bernard Lubat, batterie, piano. Et l'orchestre Jazz Coin Aquitaine.
Bien, merci à Bernard. Le travail fait ici, c'est très important. Vraiment, tellement engagé. Et maintenant, c'est le temps. On va commencer avec un morceau que j'écris. On appelle Ujamaa. Ça veut dire la communauté qui travaille ensemble. Musicien extraordinaire, révolutionnaire.
Radio Uze, la radio qui s'implique d'en bas. Radio Uze, la radio qui ne descend pas la culture d'en haut. La radio qui porte haut la culture d'en bas. Radio Uze, la radio... Merde.
Ah, quand même, de temps en temps, il s'en mêle les crayons, le père Luba. Vous avez entendu Archi Shep. Voilà, c'était les 33e Esteyade de Las Arts à Uzest, Uzest musical. Alors, un autre souvenir, un beau souvenir de ces vacances, c'est évidemment, je l'évoquais, comment le faire autrement, le fabuleux feuilleton Wörth Bettencourt. Et au cours de l'été, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée, on a fait des photocopies des dialogues, les fameux dialogues scriptés d'après les bandes enregistrées, enfin d'après les enregistrements, et on les a joués entre amis. Et ça, c'est une chose que je vous recommande. Vous faites les personnages, vous faites Patrice Demestre, vous faites Madame Bettencourt, et là, vous allez jouer la pièce la plus formidable, l'histoire la plus formidable, qui, bien sûr, nous dit ce que nous savions déjà, mais qui nous révèle quand même l'épaisseur, la profondeur et la stupeur de cette monstruosité inégalitaire.
Valérie Pécresse, c'est la ministre de la Recherche. Elle fait la campagne pour être présidente de Paris. Elle va perdre. Mais il faut que vous la souteniez. Et c'est des sommes très mineures. C'est des petites sommes. Mais elle va perdre, mais il faut quand même qu'on montre que vous la souteniez.
Je sais
pas. Il faut quand même lui montrer votre soutien. Le deuxième, c'est le ministre du budget. Oui, c'est le ministre du budget. Il faut aussi l'aider. Et le troisième, c'est Nicolas Sarkozy.
Bon, alors,
bon. Voilà. Mais c'est, ce n'est pas cher. Alors.
C'est elle qui va voir les états.
Non, c'est le maximum légal. Vous voyez, c'est 7500, c'est pas très cher. Vous savez, en ce moment, il faut qu'on ait des amis. Bon, ça, c'est Valérie Pécresse. Ça, c'est Valérie Pécresse. Ça, c'est Éric Woerth. Éric Woerth, le ministre du budget. Voilà. Et si vous voulez, je pense que c'est bien, c'est pas cher, et ils apprécient.
On ne peut pas arrêter à l'heure.
Voilà. Alors, ça, c'est fait.
Alors,
la fée. C'est fait, c'est dedans.
Voilà, vous avez été, nous avons été des dizaines de milliers à écouter ces extraits sonores, mais ça fait plaisir de les réécouter, enfin un plaisir un petit peu amer. Ce qui a surpris, qui ne laisse pas de surprendre, c'est qu'entre 2006 et 2010, en quatre années, le Trésor public a remboursé 100 millions d'euros à Liliane Bettencourt au titre du bouclier fiscal. 100 millions d'euros. Les revenus annuels de Madame Bettencourt sont de l'ordre de 34 millions d'euros. Je dis annuel, mais je me trompe, il y a tout le monde se trompe avec ces chiffres. C'est mensuel et c'est 34 millions d'euros par mois. Et on a appris que Liliane Bettencourt est imposée à hauteur de 9%, soit le taux d'un cadre qui gagne autour de 3000 euros par mois. Alors on sourit, mais cette tricherie se fait au détriment du trésor public et donc de nous tous, de tous les contribuables que nous sommes. Et la véritable délinquance, bien sûr, elle est d'abord là. La véritable violence symbolique, elle est là. L'insécurité, elle est là. Lutter contre l'insécurité, c'est d'abord lutter contre cette escroquerie formidable. Et on parlera pas mal dans les jours prochains, dans les semaines qui viennent, d'impôts et de fiscalité dans la base, si j'y suis. Oui, oui, je sais, c'est austère, c'est rébarbatif, et c'est pourtant extrêmement important. Vous le savez, on avance souvent ce chiffre concernant le déficit national, le chiffre de 100 milliards d'euros en 2009. Ce déficit est dû en partie aux baisses d'impôts consenties, non pas tout récemment, mais depuis 10 ans, depuis 2000. C'est des tableaux que vous trouvez très facilement sur le net et dans les médias. Il suffit de s'informer un tout petit peu. Voici quelques chiffres des pertes annuelles des recettes de l'État dues aux réformes fiscales depuis 2000. Écoutez bien et notez si vous le pouvez. En 2001, ces pertes étaient de 3,4 milliards. En 2002, 11 milliards. En 2003, 10 milliards. En 2004, 12 milliards. En 2005, 10 milliards. Bon. En 2006, ça monte. 15 milliards. Mais alors, en 2007, après l'élection de notre actuel président, c'est 22,5 milliards de déficit. Et en 2008, 30,2 milliards. Je n'ai pas le chiffre de 2009, mais c'est quand même considérable. Alors, par rapport à ça, on dit... c'est Le bouclier fiscal sur lequel on s'acharne, on dit c'est injuste, on a bien raison, mais c'est juste un cadeau de 400 millions. C'est juste un cadeau de 400 millions qui est fait aux riches. Alors, c'est révoltant, mais c'est tout l'ensemble qu'il faut remettre à plat. L'actuel président a poussé le bouchon plus loin, trois fois plus loin que Jospin et Chirac, mais l'inégalité fiscale était déjà là depuis un certain temps. On reviendra évidemment sur tous ces sujets dans les jours et les semaines prochaines de là-bas. Si j'y suis auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de l'émission au cours de l'été.
Salut Daniel, salut Pascal, avec le collectif des sans-papiers, voilà, quelques petits bruits de la manif. Bonne année à tous. Voilà, c'était la manif des sans-papiers à Saint-Bernard pour le 15e anniversaire.
Vas-y donc, vous allez avoir du boulot à la rentrée, hein. Je commence à baliser un petit peu, parce que j'entends parler de niche fiscale et sociale, et comme je suis handicapé visuel, c'est-à-dire aveugle total, taupe, hein, j'ai très très peur qu'on touche à mon allocation tierce personne, qui en fait me permet de vivre. Longue vie à vous.
Nous sommes le samedi 14 août, là. Et on peut dire que cet été, il n'y a pas eu la canicule en France. Non, il n'y a pas eu la canicule. C'est les Russes qui l'ont eu. Il n'y a pas eu la canicule et pourtant on suffoque davantage qu'en 2003. Parce que tous ces salopards sont en train de prendre des mesures ignobles, ignobles. Je parle là évidemment de toutes ces expulsions de Rome. Ça y est, ils se sentaient les mains libres. Alors on expulse à tour de bras. Avec l'approbation d'une partie de la population. La France est de Vichy, se réveille. Bien sûr que ce sont des voyous. Bien sûr que Jean-François Cohn a eu raison de titrer le voyou de la République. Sauf que c'est pas au singulier. C'est une bande de voyous, mais on peut pas le dire parce que c'est eux qui ont la loi. Vous vous rendez compte? Cette absurdité. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui ont le droit d'envoyer les policiers. Et les gens disent, ah mais il faut respecter la loi, on en a besoin. Sans la loi, qu'est-ce qu'on ferait? Alors on va le dire poliment, on va faire peut-être des pétitions. Ils auraient dû faire des pétitions, les résistants, en 40, contre les méthodes des nazis. Ça aurait donné sûrement d'excellents résultats. Et puis des démarches, des interventions pour dire... ces méthodes sont un peu abusives quand même. Qu'on envoie des juifs dans des camps de concentration, quand même c'est un peu abusif. Ça n'honore pas la République. Ça aurait été très efficace. C'est ignoble, ignoble. Ces gens-là sont des voyous, sont des moins que rien, quoi. Et il faut le dire. Et je ne sais pas jusqu'à quand les Français vont supporter ça. C'est ignoble.
En ce lieu se trouvait le camp d'internement de Montreuil-Bellay, de novembre 1941 à janvier 1945. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants d'Igan y souffrirent victimes d'une détention arbitraire.
C'est court ce texte sur cette stèle, dans cette plaine battue par le vent, à l'entrée à 2 km à peu près de Montreuil-Bellay sur la route de Saumur. C'est toute petite stèle de pas grand chose, mais c'est le fruit d'un boulot fantastique. Et ceux qui ont fait ce travail, qui ont abouti à ça, à cette petite trace de la mémoire, sont avec nous aujourd'hui. C'est Poulouche, qui est un Zigane, et Jacques Sigaud, qui a fait un boulot de recherche formidable, et puis quelqu'un d'autre qui est Monsieur Pierre, on va l'appeler comme ça. Alors, il faut dire que Poulouche a été interné dans ce camp entre 41 et 45, à peu près, il va nous préciser ça, avec sa famille, avec sa maman. Et Monsieur Pierre, qui a accepté de venir avec nous, a travaillé, lui, dans le camp. C'est-à-dire qu'il était du côté des Français. C'est extraordinaire de voir que sur le terrain dans lequel on entre, il y a des barbelés comme ça autour aujourd'hui, sur le sol, toutes les traces de ce camp subsistent. Les fondations, des bâtiments, c'est comme des cicatrices, les cicatrices d'une mémoire qui décidément ne veut pas se refermer. Pas d'oubli pour ce camp qui, je vous le disais, a été un camp entièrement organisé par les Français. Alors ce qui est en même temps touchant et très fort, c'est que Poulouche, lui, a été interné dans ce camp
jusqu'à la fin, jusqu'en 1945. Vous allez voir, cette date est surprenante, mais les Diganes ont été libérés de ce camp seulement en 1945, donc plusieurs mois après la libération. Et là, ils rencontrent, 50 ans après, en gros, ce monsieur Pierre qui travaillait dans le camp. Rencontre surprenante.
Voilà, c'est l'extrait d'une émission qu'on vous avait présentée en 1993, en janvier 93, il y a exactement 17 ans, ce camp de Montreuil-Bellay, qui avait été découvert, redécouvert par Jacques Sigaud, un instituteur du coin, qui avait commencé à faire un travail de recherche, et il n'a pas cessé de s'entêter, de travailler, de réunir les documents, les témoins, pour arriver à un moment extraordinaire au cours de l'été. Au cours de l'été, au moment même où Nicolas Sarkozy sortait ses propos ineptes sur les gens du voyage et sur les Roms, au moment précis, eh bien, à ce moment précis, la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de Loire annonçait le classement comme monument historique des vestiges de l'ancien camp d'internement de Tziganes de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. Entre novembre 1941 et janvier 1945, 2500 à 3000 personnes y furent enfermé, et c'est le plus grand camp d'internement Tziganes en France. Il y en a eu d'autres, vous vous souvenez, on avait fait des reportages en Camargue, mais celui-là, c'est le plus important. Mais surtout, l'existence de ce camp, la présence de ce camp dans les mémoires, eh bien, c'est dû au boulot de Jacques Sigaud. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille à faire affleurer cette mémoire. Voilà comment les choses s'étaient présentées dans ce reportage de la base Si j'y suis, de janvier 93.
Alors Jean-Louis Boer, d'abord c'est Poulouche.
Poulouche.
Poulouche, parce qu'ils ont toujours un nom, un pseudonyme, un deuxième nom. Ils se connaissent plus d'ailleurs que sous le nom de Poulouche que sous le nom de Jean-Louis Boer. Et il avait 12 ans, 13 ans quand il est venu à Montreuil, mais il avait déjà fait avant les camps de Mérignac à côté de Toulouse et surtout Bordeaux. De Poitiers.
Bordeaux.
À côté de Bordeaux, pardon. Bordeaux. Et surtout Poitiers.
Poitiers, oui.
Et vous, monsieur ?
Quatroux, Pierre Quatroux.
Ouais.
Je suis rentré tout à fait en dernier dans le camp, puisque j'étais passible du travail obligatoire en Allemagne.
Du STO ?
Du STO. Comme mon père était secrétaire de mairie et ami du secrétaire principal de la préfecture, donc par une filière, on m'a fait embaucher comme électricien, et je suis venu là comme électricien jusqu'à la fin du camp.
Donc, à l'époque, si je comprends bien, il y a 50 ans, à peu près 50
environ
ans.
Environ 50 ans.
Environ, vous étiez électricien
ici
dans le camp, oui. Et vous étiez interné, Poulouche, interné,
ouais,
dans le camp.
Ouais.
Donc vous vous êtes rencontrés probablement à l'époque.
Moi je le connais pas. Hein. Moi j'avais 12 ans, je sais pas s'il a gardé le camp. Il me dit qu'il avait jamais eu un fusil, qu'il est mis au camp, il avait jamais gardé le camp. Il était électricien.
Vous aviez un fusil ou pas?
Mais non, moi j'étais électricien. Moi je m'occupais pas du.
Alors, qui dit, je sais pas maintenant.
Du pourtour du camp, quoi. Moi, de nuit, bon, on venait pour, je sais pas quoi faire, pour dormir souvent de fois au poste de garde. C'est tout ce que l'on faisait.
Au poste de garde, quand même. Vous gardiez le camp quand même au poste de garde?
Ah bah, on dormait dans le camp, quoi, oui. Enfin, à côté.
Quand même. Ouais. Bon français, quoi.
Ouais. Nous en dernier, chacun sortait quand il voulait, quand il y avait quelque chose, chacun sortait comme il voulait. Hein. Ici, là.
Personne sortait.
Oh,
on peut dire des trucs comme ça.
Mais si, quand il voulait aller faire un.
Mais non, il y avait des travailleurs qui. Il y en avait quelques-uns au départ. Ils sortaient travailler, là, je sais pas où, dans une usine à faire des boulons, je sais pas quoi. Mais personne ne sortait d'ici.
C'était
renfermé. On sortait d'ici quand il y a eu des bombardements.
Ah oui, mais ça, c'était avant.
Monsieur,
ça,
quand il y a eu des bombardements sur ce camp-là, ici.
Moi,
là,
je vous dis.
On était mitraillés.
Il y a 44,
haut,
oui.
Et des gars comme ça, là. Des gars comme ça, je ne sais pas, je ne réussirai pas à me voir. Attends, écoutez ça. Des gars comme ça qui vous gardaient avec un fusil.
L'électricien avec son fusil.
Ah oui, mais non, je n'étais pas là à l'époque. Et beaucoup de gens.
Vous avez connu, vous, les baraquements, que les gardiens, ils rentraient pas, ils avaient peur des maladies, des poux et tout? Vous n'avez pas connu ça?
Non,
les appels, ils n'en faisaient même plus dans les camps. Ils avaient peur des poux, des maladies, et puis tout qu'on avait dans les camps, toutes les, les maladies possibles.
Non, moi, j'ai pas connu ça. Moi, c'était la fin. En quelle année ils ont été transférés à Gergeau?
Ben, vers 44, on est parti.
Le 16 janvier 45, ils sont partis pour Gergeau.
On a resté combien, 7-8 mois à Gergeau?
Gergeau, 8-9 mois.
Il faut voir que ce qu'on a vu comme misère ici, dans ce camp-là, c'était terrible. Là, dans les baraquements, quand on était malade, en haut, l'infirmerie, vous crachez le sang. Allez à l'infirmerie, on vous donne un cachet, c'est vrai ou pas vrai? On n'a même pas le droit à l'accès à l'hôpital, rien du
tout. Il n'y a plus de gardien de la première période, quoi, c'est ça?
Oui, je comprends bien.
Voilà, un court extrait de ce reportage de 1993. La tension qu'il y a entre ces deux hommes qui sont là sur ce terrain, sur cet ancien camp, sur les traces presque entièrement effacées à ce moment-là de cet ancien camp. Le gitan, Poulouche, et Monsieur Pierre Catrou, qui était l'électricien, et puis Jacques Sigaud, qui est celui, cet instituteur, qui a fait ses recherches, on l'appelle Chopa, dans le milieu, et cette considération au moment même où le président de la République exacerbait dans ses discours le racisme anti-Rome. Merci à tous, merci à toutes et à Antoine Chao. Pour vous inscrire à l'enregistrement de l'émission Autour du monde diplomatique de demain, qui aura lieu à la Java de 18h à 20h, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris, envoyez vos noms, numéro de téléphone et nombre de places souhaitées à... Je vais y arriver cette fois-ci. lediplo@gmail.com. lediplo@gmail.com. Et lediplo@gmail.com tout attaché. Et sans accent, me précise-t-on. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari. Koye Nguyen et Raphaël Moutarde avec Loïc Frenea ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot. Le numéro du répondeur de la Passe Justice, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Laetitia est sereine. Elle a choisi la complémentaire santé.
GMF.
Une protection efficace et économique pour toute sa famille.
Avec la GMF.
Laetitia bénéficie d'un réseau de professionnels de santé à tarifs négociés et même d'un remboursement de médicaments sans ordonnance.
Grâce à la GMF.
Laetitia peut donc penser à autre chose qu'à son assurance santé, ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. En ce moment, profitez de 2 mois offerts pour toute souscription avant le 31 octobre. Conditions en agence et sur gmf.fr.
16h45 sur la Terre. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Stéphane Leneuf. Salut!
La mort du cinéaste Alain Corneau, le réalisateur âgé de 67 ans, est décédé des suites d'un cancer. Son dernier long métrage, Crime d'amour, était sorti le 18 août. Alain Corneau était l'auteur de certains des plus grands succès du cinéma français de ces dernières années. Police Python 357, Le choix des armes, Série noire, Force Hagan ou encore Tous les matins du monde, qui a remporté 7 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. C'était en 1992. Cela s'appelle faire machine arrière. Monseigneur Legal, archevêque de Toulouse, déclare que le sort des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et le sort des Roms d'aujourd'hui n'est évidemment pas comparable. Une mise au point après les vives protestations qui ont suivi ses propos. Vendredi à Lourdes, il avait dressé un parallèle entre les expulsions des Roms et le sort fait aux Juifs de France pendant le dernier conflit mondial. Le procès de 5 personnes accusées d'avoir mis à mort en mai 2006 dans des conditions particulièrement atroces William Modolo a débuté cet après-midi à Aix-en-Provence. Procès devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Il doit durer jusqu'au 10 septembre. 3 hommes et 2 femmes dans le box des accusés. Ils comparaissent pour assassinat et complicité d'assassinat. La justice leur reproche également des actes de torture et de barbarie. 4 mois d'exclusion contre une fonctionnaire de la région Aquitaine, auteur d'un pamphlet qui dénonçait les dysfonctionnements du conseil régional. Aurélie Boulet, alias Zoé Shepard, a été sanctionnée pour manquement à l'obligation de discrétion, manquement à l'obligation de réserve et comportement fautif à l'égard de sa hiérarchie. L'équipementier Dacia Automobile Continental, condamné au prud'homme. 29 anciens salariés de l'usine de Rambouillet dans les Yvelines ont obtenu des dommages et intérêts. Ils avaient été licenciés dans le cadre d'une délocalisation vers la Tunisie. En Russie, la canicule de cet été a provoqué une hausse de la mortalité de 50% à Moscou. Le chiffre a été communiqué par le ministère de la Santé. Jusqu'à présent, les autorités russes se refusaient à dresser le bilan humain de la vague de chaleur. Les explications d'Ilana Moriosev.
La mortalité a bondi de 50% en juillet dans la capitale russe par rapport à l'an dernier. Elle a augmenté de plus de 8% pour l'ensemble de la Russie. Pendant plusieurs semaines, en dépit des morgues débordées, les autorités ont refusé d'admettre que les très fortes chaleurs avaient provoqué une augmentation de la mortalité. Le ministère russe de la Santé ne précise d'ailleurs pas le nombre de décès, mais l'Agence fédérale des statistiques présente des chiffres sur son site internet. En juillet 2010, la Russie a enregistré environ 14 000 décès supplémentaires par rapport à juillet 2009, dont 5 000 pour la seule ville de Moscou. Ces données ne prennent pas encore en compte le mois d'août, lorsque la chaleur et la sécheresse ont provoqué des incendies de forêt et des feux de tourbière. Moscou avait alors été envahi par des fumées nocives. Selon la municipalité, la mortalité a été multipliée par 2 ou 3 à ce moment-là. Moscou, Ilana Moriousef, France Inter.
La France et l'Égypte d'accord pour réunir un sommet de l'Union pour la Méditerranée au mois de novembre pour conforter le processus de paix au Proche-Orient, sommet en complément des négociations directes qui s'ouvrent jeudi à Washington. Cette proposition a été faite aujourd'hui à l'issue d'une rencontre à l'Élysée entre Nicolas Sarkozy et le président égyptien Hosni Moubarak.
Que se passe-t-il quand les artistes sortent de scène ?
Charlotte Lipinska sur France Inter.
Où vont-ils se parler, se rencontrer, se raconter ? Tous les soirs en direct, on accueille ceux qui rendent le spectacle vivant et bouillonnant. Voulez-vous sortir avec moi ? Croise les arts et trinque à leur santé.
Voulez-vous sortir avec moi ? Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 23h.
France Inter. France Inter.
La différence.
Et musique sur France Inter avec vous, Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes notre équipe et puis voilà, le temps est passé. L'été, beaucoup de musique, il y a eu des festivals. Comment va la musique classique ? Elle va très très bien, je peux vous dire qu'il y a quelque chose par exemple de très frappant à Royan. Je ne savais pas que c'était aussi important. J'avais bien vu à la télévision le violon sur le sable, mais là il faut physiquement y être pour constater qu'il y a 50 000 ou 60 000 personnes quelquefois sur la plage, des gens qui sont dans les tribunes ou alors qui ont apporté leur pliants pour écouter de la musique jouée par des interprètes de très haut niveau, des vrais professionnels et amoureux de la musique qui ont même accepté de jouer sous quelques gouttes de pluie. Ça n'est pas si facile que ça quand on a de beaux violons. Et puis sous la baguette de Jérôme Pilman, ben voilà, la musique classique sur la plage, ça existe et ça fonctionne à Royan admirablement. Vraiment un monde fou. Ben, on joue en plein air dans beaucoup de festivals l'été. Par exemple, à Schönbrunn, il y a eu un concert d'été et l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Un témoignage existe, c'est un disque Deutsche Grammophon. Voici Les Étoiles du Soir, une valse de Joseph Lanner.